بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 6 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 janvier 2026. Donc nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de ce livre très profitable de l'imam Ibn al-Qayyim, Risalatun ila ahadi ikhwanihi, qui est une lettre qu'il a adressée à un de ses frères. Donc, on est toujours au sujet de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons établi parmi eux des chefs et des guides qui dirigent les gens par nos ordres, lorsqu'ils se montrèrent patients et crurent fermement à nos versets. Donc c'est avec la patience et la certitude qu'on atteint les degrés les plus élevés dans la religion, qu'on devient un modèle et un exemple à suivre pour les autres. Mais avant cela, il faut que nous-mêmes, faut qu'on prenne les pieux prédécesseurs comme des modèles et des exemples, afin d'être des modèles et des exemples pour ceux qui viendront après nous. Et ce verset, comme de la même manière qu'il comporte ces deux caractéristiques nécessaires dans la religion, as-sabr wal-yaqin. As-sabr, vous savez, c'est la moitié de la foi. As-sabr, c'est la moitié de la foi. La patience, l'endurance et la certitude, c'est le don le plus élevé qu'Allah accorde à un croyant, d'avoir la certitude sur la vérité et sur cette religion et sur la parole « La ilaha illallah ». D'avoir la certitude. C'est la meilleure chose qu'Allah donne dans l'islam. La certitude. Et la certitude, c'est des degrés. Les uns au-dessus des autres. Et ta certitude est proportionnelle à ta science. La certitude augmente avec la science. De la même manière, ce verset comporte deux autres fondements. Deux autres fondements en plus de ces deux, qui sont nécessaires pour tout croyant et qui sont les clés pour arriver au degré les plus élevés dans la religion. Et allez dans Madaris Salikin, l'imam Ibn al-Qayyim, quand il a parlé de sabr wal yaqin, il a expliqué pourquoi c'est nécessaire pour tout croyant. Wallah, l'homme de mémoire, je pense que c'est dans Madaris Salikin qu'il a mentionné cela. Car nous sommes sur une voie que nous devons emprunter jusqu'au bout. Et tu ne vois pas la fin de cette voie. Et ce qui t'est réservé à la fin, car elle est très longue, tu la parcours durant toute ta vie, ce chemin. Et tu dois rester sur ce chemin. Et tu dois faire les efforts d'avancer jusqu'à arriver au bout. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer ton chemin jusqu'au bout? C'est la certitude sur ce qu'il y a au bout. Car tu ne le vois pas avec les yeux. Mais, plus ta certitude est forte, plus tu vas aller avec une plus grande ferveur et force vers le bout. Donc, tu as besoin de la certitude. Et aussi, tu as besoin de la patience et de l'endurance. Car il y a énormément de choses qui essayent de te faire sortir de cette voie, vers des sentiers, à droite ou à gauche. Et sur chacun, il y a un shaitan auquel il appelle les gens. Donc il faut que tu sois patient pour rester sur cette vérité jusqu'à rencontrer Allah, et il faut que tu aies la certitude pour que tu continues à fournir les efforts qui te rapprochent d'Allah. Ensuite, il a dit que ce verset comporte deux autres fondements. Le premier, ad-da'watu ila Allah wa hidayatu khalqihi. Le troisième, donc, des fondements qui sont comportés dans le verset, c'est d'appeler vers Allah et d'être la cause de la guider de ses serviteurs. والثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. الله أكبر. Le quatrième, c'est de les guider, mais pas n'importe quel guider. De les guider conformément aux ordres d'Allah qui nous sont parvenus par l'intermédiaire de son messager. Et non pas les guider selon leur raison. Je vois que ça c'est bien. Je vous donne un exemple d'un raisonnement logique. Pourtant, il s'oppose avec une orientation divine. Le premier, avant de le citer, le premier qui a fait un raisonnement soi-disant rationnel et logique qui s'oppose au commandement d'Allah, c'est qui? L'imam de cette école. Le premier à l'avoir fait. Est-ce que vous savez? Non. C'est qui? Non, il a fait un raisonnement rationnel qui s'oppose au commandement d'Allah. Iblis. Naam, shaitan, lakin il faut, shaitan c'est la catégorie. Lakin huwa, il s'appelle Iblis. Le père de shayatin. Leur père. Iblis, c'est le premier qui a fait un raisonnement, entre parenthèses logique, qui s'oppose au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier à avoir fait une analogie qui s'oppose au commandement d'Allah. C'est pour ça l'analogie en islam, c'est le troisième argument, et non pas le premier. Quand est-ce qu'on fait une analogie en islam? Quand on n'a pas de texte par rapport à une question. Donc on va faire une analogie qui va nous permettre d'arriver à un jugement en comparant à quelque chose qui existe dans la religion. Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de se prosterner devant Adam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me prosterne devant lui alors que je suis meilleur. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Est-ce que c'est vrai qu'il est créé de feu? Non. Et Adam, il est créé d'argile. Et selon lui, la matière à partir de laquelle il est créé, elle est meilleure que la matière à partir de laquelle est créé Adam. Donc il est supérieur. Comment je vais me prosterner devant quelqu'un qui est inférieur? Et ça, c'est une prosternation de salutation. Et non pas une prosternation d'adoration. Car la prosternation d'adoration n'est autorisée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les législations. Elle n'a jamais été autorisée pour une créature. Shirk n'a jamais été autorisé. Lakin, ça c'est une prosternation de salutation. Comme la prosternation des parents de Youssouf alayhi salam et de ses frères devant lui. Et cette prosternation de salutation a été abrogée dans notre législation. Elle est devenue interdite. Car notre législation, c'est la dernière des législations. Et elle ferme la porte à tous les maux. Yani, il y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte ouverte ou là de moyen même autorisé qui permet de conduire vers shirk dans notre législation. La législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amma la religion de tous les prophètes, elle est la même. Ils ont tous la même religion. L'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, tout en suivant le messager qui leur a été envoyé. Leur religion, elle est la même. La religion de Moussa, alayhi salam, c'est l'islam. La religion de Isa, alayhi salam, c'est l'islam. La religion de Adam, alayhi salam, c'est l'islam. Inna ad-din 'indallahi l'islam. Le judaïsme est un égarement et une falsification de la religion de Moïse, qui est l'islam. Et le christianisme est une falsification de la vraie religion de Jésus, qui est l'islam. Jésus était un musulman et était un croyant. Et Moussa était un musulman et il était également un croyant. Et ses suiveurs ainsi. طيب. Donc, نعم, je voulais citer un exemple auquel j'ai pensé, c'est l'exemple de ceux qui disent aujourd'hui, aujourd'hui je paye un loyer. Je paye 500 euros par mois. Et je n'ai pas les moyens de m'acheter un appartement ou une maison. Donc, si je reste toute ma vie à payer 500 euros par mois, au bout d'un an, je paye combien? 5 multiplié par 2, ça fait 60. 6 000 euros. Au bout de 10 ans, ça fait 60 000. Au bout de 20 ans, 120 000. 25 ans, 150 000 euros. Donc, si je m'achète un appartement, avec même avec l'usure, avec les intérêts bancaires, ça va me permettre d'assurer l'avenir de mes enfants et de leur laisser un logement, un toit. Au lieu de continuer à jeter mon argent comme ça dans le vide et à payer des loyers. Yani, ça peut coller rationnellement. Lakin, si tu le fais, yani déjà, c'est pas acceptable en religion. Ce raisonnement, il est rejeté. Il est rejeté d'office. Parce qu'il s'oppose à un ordre d'Allah. Qui est l'interdiction de faire riba. L'interdiction de faire riba. Personne ne peut venir autoriser riba aux musulmans jusqu'à la fin des temps. Quand est-ce que riba peut être autorisé pour un musulman? Elle peut être autorisée dans les mêmes circonstances qu'il est autorisé pour lui de boire de l'alcool pour ne pas mourir de soif et de manger de la bête morte pour ne pas mourir de faim. Elle est autorisée comme tous les autres interdits qui deviennent autorisés, dans le cadre de la nécessité. La nécessité, c'est perdre sa vie ou un membre. Darura. C'est-à-dire la nécessité. C'est pas un besoin. Il y en a en religion, on a les nécessités, on a les besoins, et on a les complémentarités, ou la kamaliyat. Les nécessités, c'est les choses desquelles dépend ta vie. Et les besoins, c'est les choses, si jamais tu les perds, tu seras dans une gêne. Mais ça reste supportable. Et les choses complémentaires, c'est les choses, yani, qui font partie du luxe, yani, qui sont au-dessus, yani, après tous tes besoins. Kamaliyat, comme, si on peut considérer ça comme le kamaliyat, Nutella. Lakin en réalité, c'est pas, ça fait pas partie de le kamaliyat. Ça, pour moi, ça fait partie, ça reste un avis personnel. Ça fait partie des mots. C'est pas un luxe ou là, une bonne chose. C'est une très mauvaise chose pour notre santé. En tout cas, déjà, on rejette cet argumentaire. Car nous avons un interdit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir un logement, c'est pas une nécessité. Pour que ça autorise l'interdit. Car presque les trois tiers des gens de la terre sont en location et ne sont pas propriétaires de leur logement. Donc c'est pas une nécessité. Et en plus, ceux qui rentrent dans ces crédits bancaires, tu vas constater que leur vie s'empire. Comme Allah l'a dit dans le Coran. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah rend caduque la baraka de leurs biens. Et ça, c'est des choses que j'ai vues avec mes propres yeux. Et vous l'avez peut-être vu aussi dans votre entourage. Des gens qui gagnaient suffisamment bien leur vie et qui avaient une vie plutôt paisible. Et dès qu'ils sont rentrés dans le riba, yani leur vie s'est transformée en un enfer. Yani l'égarement des enfants, les enfants qui sont tombés dans la drogue, et même au niveau des dépenses, ils n'arrivent plus à finir leurs mois. Et je les ai vus dans des gens de mon entourage, ces choses-là. En tout cas, on ne vient pas avec un raisonnement logique pour s'opposer à une directive divine. Donc, nous devons guider les gens avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas avec nos raisons. Est-ce que moi je vois comme bien? Nous devons les guider avec la notion du bien absolu. Et ça, c'est la révélation. Amma, ce qui est bien pour moi, peut-être c'est un mal pour un Chinois. Ça, c'est des notions qui sont relatives. Ce qui est absolu, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas avec leurs opinions. Vous savez, l'opinion en islam n'a pas de place quand il y a les textes et les arguments. Quand est-ce qu'un homme de science se permet de donner son opinion par rapport à une question religieuse? C'est quand il ne trouve pas de texte. Et surtout dans ce qu'on appelle nawazil, les questions nouvelles auxquelles nos pieux prédécesseurs n'ont pas donné réponse car elles n'existaient pas. Donc l'homme de science, il va faire un effort. Et il va donner un avis en ayant bien évidemment tous les outils et en maîtrisant les règles de la législation, les grandes règles, et en restant dans un certain cadre. Et non pas, il a dit, وَسِيَاسَاتِهِمْ, et non pas avec leur politique non plus. وَأَذْوَاقِهِمْ, ils ne vont pas les guider selon leur goût. Et les goûts, c'est Sophia. C'est Sophia qui, souvent, ils sont dans ce qu'ils appellent dhawq. C'est pour ça que quand tu reproches à un Sophi une pratique interdite, il dit, tu n'as pas de goût là. Yanni, tu n'as pas de compréhension profonde. Tu es seulement dans l'apparence. Pourtant, lui, il commet un interdit. Lakin, ce qui lui permet de commettre ces interdits, c'est des bases qui lui ont été inculquées. Sophi, on lui enseigne que nous avons 3 degrés dans la religion. Mais c'est pas ce qu'on apprend et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans le hadith Jibril. L'islam, l'iman, l'ihsan. Ça, c'est les vrais 3 degrés de la religion. L'islam, la foi et la bienfaisance. Pour lui, les degrés, c'est d'abord, sharia, la législation. Ça, c'est le degré des gens de la masse, comme nous et comme les prophètes avec nous également. Ils sont uniquement dans ce degré-là. Ils sont dans la législation, c'est-à-dire dans la notion de l'halal ou l'haram. Pour lui, ça c'est haram, ça c'est halal. Il faut une loi pour diriger la masse. Et ça, ils l'ont pris des philosophes. Les philosophes, ils disent la même chose au sujet des religions. Ils disent, c'est des lois, c'est bien la religion. Ça permet de contrôler une masse, un peuple. Donc ils disent, ça c'est le premier degré, sharia. Après, il y a un autre degré supérieur qui s'appelle haqiqa, la vérité. T'arrives à la vérité. Et là, tu vois les choses différemment. L'alcool, c'était haram pour la masse. Mais pour toi, c'est plus haram. Fumer de la drogue, c'est pas haram. Faire zina, c'est pas haram. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui est haram. Et il n'y a plus rien qui est obligatoire non plus. quand tu arrives à ce degré-là. Et il y a encore un autre degré qui est plus compliqué et qui arrive au degré de la mécréance. Vous imaginez, si tu sors de la législation, qu'est-ce qui reste? Il reste que la mécréance. Ce qu'ils appellent fana. Yani comme s'il va s'effacer. Il ne voit plus rien que Allah. Tout est Allah. Et c'est pour ça, ça peut vous choquer d'entendre ça. En tout cas, moi, ça m'a choqué quand je l'ai appris la première fois. Et surtout, un de leurs grands, qui est Ibn Arabi, un des plus grands d'entre eux, qui dit dans son livre que Moussa alayhi salam n'a pas compris Tawhid. Et Pharaon l'a compris mieux que Moussa. Mais, yani, est-ce que ça, c'est un musulman qui dit ça? Parce que Moussa alayhi salam, il adorait une seule divinité. Il est encore dans le degré de la législation. Amma Pharaon, il a compris la réalité. Il est arrivé au degré de l'fana, le degré le plus élevé. Tout ce qu'il voit, c'est Allah. T'adores une statue, t'adores une pierre, t'adores de l'argent, t'adores... En réalité, tu n'adores que Allah. Et il n'y a pas de mécréance qui est plus grande que celle-là. Nas'alullah salam al-afir. Pour ça, il faut qu'on reste dans la législation. Ça, c'est le degré des prophètes et des messagers. Et Cheikh l'Islam, il cite souvent l'histoire de un grand ascète, un grand adorateur, qui a, un jour pendant la salat chez lui, il a vu le toit. C'est Ibn Taymiyyah qui rapporte cette histoire de Abd al-Qadr al-Jilani, un grand ascète, un grand adorateur qui était sur la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Il y avait des remarques le concernant, mais d'une manière générale, il était dans la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Donc cet homme, un jour, en plein salat chez lui, il a vu le toit de sa maison s'ouvrir. Il a vu quelqu'un avec énormément de lumière, qui dégageait énormément de lumière, assis sur une chaise très haut dans le ciel. Il lui a dit, « Ya Abd al-Qadr, je suis ton Seigneur. J'ai fait sauter pour toi l'obligation de la salat. » Il lui a dit, « Irsa ya aduwallah, anta iblis, t'es ash-shaytan. » Car là, il sait que salat n'a pas sauté pour les prophètes. Allah Azza wa Jalla dit en s'adressant aux prophètes et à tous les croyants, « Fa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et les salafs, ils sont unanimement d'accord que la certitude ici, c'est la mort. Tu dois adorer Allah jusqu'à la mort, jusqu'à le rencontrer. Lakin, eux, ils disent, la certitude, c'est pas ça. C'est pas la mort. Les égarés. Les égarés parmi les sophis, ils disent, et du moment que tu t'as filé au sophisme, c'est que tu t'es écarté de la sunna. Lakin, cet écartement, il peut être avec des innovations, il peut être avec pire que les innovations des choses de la mécréance. Et il ne guide pas non plus les gens selon l'imitation de leurs prédécesseurs sans argument, sans preuve. C'est pour ça que nous disons suivre les pieux prédécesseurs et non pas suivre les prédécesseurs d'une manière générale. On suit les pieux parmi eux, ceux qui ont suivi le prophète alayhi salam seulement. Si dans mes ancêtres il y a des gens qui n'étaient pas sur la sunna, je vais pas les suivre et je vais demander à Allah de leur pardonner, de leur faire miséricorde. Amma suivre les prédécesseurs juste parce que ce sont des prédécesseurs, ça c'est une pratique anti-islamique. Et vous savez, Abu Talib, la cause principale qui l'a empêché de suivre l'islam, malgré qu'il savait avec certitude que c'était la vérité, l'oncle du prophète alayhi salam, il savait que le prophète alayhi salam était véridique et que l'islam est la vérité. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de le suivre? C'est la vénération des prédécesseurs, de ses ancêtres. Il avait à côté de lui, dans ses derniers instants dans cette dunya, il avait à ses côtés deux mécréants, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya. Et le Nabi alayhi salam lui a rendu visite quand il a su qu'il était mourant, qu'il était malade. Il lui a dit, « Ya Am, ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais te défendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il était réticent. Et quand Nabi alayhi salam l'a invité à dire cette parole, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, « Atarghabu an millati Abd al-Muttalib, tu vas abandonner la religion de tes ancêtres. » C'est ce que tu entends aujourd'hui de certaines personnes ignorantes, quand tu les appelles à suivre une sunna, ils te disent, « Mais nos parents, ils n'étaient pas comme ça. » Et alors ? Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas un argument. Tes parents, ils n'étaient pas comme ça, et alors ? C'est des prophètes. Si c'est des prophètes, non, c'est un argument. Amma, si ce n'est pas des prophètes, on revient aux prophètes. Comment il était le prophète ? S'ils suivent les prophètes, naam, on les suit. Ils ne le suivent pas, on ne les suit pas. Ils lui ont dit, Atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Et le Nabi alayhi salam lui a répété trois fois. Et à la fin, il a dit, Huwa ala millati Abd al-Muttalib. Et dans une narration, il a dit, je l'aurais dit pour faire plaisir au prophète alayhi salam, car il l'aimait tellement, il savait que ça lui ferait plaisir. Lakin, il n'a pas voulu le dire par rapport à cette fierté et cet attachement à ses ancêtres, même s'ils sont dans l'égarement. Même s'ils sont dans l'égarement. Donc, ta'zim salaf, la vénération des prédécesseurs, c'est la vénération des pieux parmi eux, ceux qui étaient sur la sunna. Et la preuve sur ces deux points, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Yahdouna bi amrina » وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait deux des imams qui guident avec nos ordres. Donc il a dit qu'ils guident avec nos ordres. Donc ils guident, c'est-à-dire ils font la da'wah. Ils appellent les gens. Et ils les guident avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, parmi les versets qui étaient les plus lourds pour le prophète alayhi salam, c'est la parole d'Allah, fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Même il est rapporté que le Nabi alayhi salam, le hadith, dans sa chaîne de transmission, il y a peut-être qu'il n'est pas authentique, d'après de mémoire comme ça, je pense qu'il n'est pas authentique, lakin comme quoi le Nabi alayhi salam a dit, shayyabatni hudun wa akhawatuha. Ça lui a donné des cheveux blancs. De lire Hadl Surah, les ulama disent que c'est ce verset. Fastaqim kama umirt. Suis la droiture comme il t'a été ordonné. C'est pas suis la droiture comme tu veux. Non, comme il t'a été ordonné. Et le Nabi Islam, il pèse bien la lourdeur de cet ordre. Il est lourd pour lui. Il n'est pas facile à pratiquer. Et quand cet homme est venu le voir, alayhi salam, il lui a demandé de lui donner un conseil succinct, résumé, concis. Il lui a dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis, j'ai cru en Allah et suis la droiture. Dis, j'ai cru en Allah et suis la droiture. Ensuite, il a dit, فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أُصُولٍ تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الْآيَةِ. Donc, ce sont quatre fondements que comporte ce verset. Le premier, c'est la patience. Et la patience, c'est d'empêcher, de s'empêcher, de transgresser les limites d'Allah. La patience, linguistiquement parlant, ça signifie l'habs, la prison. Al-habs. Habs, darija, en langue arabe. Yani, d'emprisonner tes membres et ta personne, donc de transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de porter ton nafs à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses obligations. Et l'empêcher également de se rebeller contre les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se plaindre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Imam Ahmed, il était très malade et وكان يئن. الأنين, c'est pas comment on dit en français. الأنين, c'est quand quelqu'un est très souffrant, très malade. يعني, il fait comme ça. Est-ce que vous savez comment on dit ça? يعني, gémissement. Il faisait un gémissement à cause de la douleur. Et quelqu'un parmi les salaf lui a dit, et quelqu'un qui était auprès de lui lui a dit que ce gémissement, il fait partie de la plainte de Shakwa. Il l'a arrêté. C'est pour ça, normalement, tu vas pas te plaindre à une créature de ton créateur. Ce qui est autorisé, c'est de se plaindre au créateur. Mais la créature, elle peut rien t'apporter. Tu te plains à une créature de ton créateur, de ce que ton créateur a décrété. Mais quand est-ce que tu vas raconter tes souffrances, tes douleurs, dans des circonstances bien déterminées, quand il y a un intérêt, par exemple devant un médecin, ou là, dans des situations comme ça. Là, quand tu t'assois pas et tu commences à parler de tes douleurs, de tes épreuves, et de... Non, tu patientes, tu fais le habs. Tu retiens ta langue des plaintes. Et le deuxième fondement, c'est la certitude. Et la certitude, il dit, c'est la foi ferme. La foi ferme dans laquelle il n'y a point de doute, ni d'hésitation, ni d'ambiguïté. Au sujet de 5 points principaux. Donc c'est la foi ferme dans laquelle il n'y a pas de doute ni d'hésitation au sujet de 5 points principaux qui sont mentionnés dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى ولكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc ce sont ces 5 points principaux qui font partie des 6 piliers de la foi. Dans ce verset sont mentionnés 5 parmi ces 6 piliers de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ce verset, il dit, لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا قِئُوْجُوهَكُمْ Il dit, la vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, et les livres, ce sont les écritures qui ont été révélées aux prophètes et messagers, et aux prophètes. Donc ça, c'est 5 parmi les 6 piliers de la foi. Et ces mêmes 5 piliers de la foi sont mentionnés dans le hadith Jibril. Quand Jibril est venu interroger le prophète, alayhi salam, en présence des compagnons, c'est quoi la foi? Il a dit, la foi, c'est de croire en Allah, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, al-imanu billahi wa malaikati, dans le hadith, de croire en Allah, aux anges, de croire aux anges, aux livres, et aux prophètes, et au jour dernier, et de croire au destin convenable et inconvenable. Il y en a qui disent bon et amer. En tout cas, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, que ça te corresponde ou pas. Donc il a dit, ce sont les cinq points principaux. Le destin, vous remarquez qu'il ne l'a pas cité, malgré qu'il fait partie des piliers de la foi. Il n'y a pas de foi sans la foi au destin, avec ses quatre degrés. La science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilm al-azali, l'écriture qui a été faite 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la création. Chaque acte qui prend existence dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément il est passé par ces quatre étapes. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Ce qui va se passer, et même ce qui ne se passera jamais, si jamais il serait passé, comment il serait passé? Allah, il sait tout. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose. Ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux pas imaginer. Mais Allah a créé le qalam, la plume, 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et quand Allah veut que la chose arrive, quand Allah a voulu que ce créant tombe, ça c'est la troisième étape, la volonté. Il l'a voulu. Car rien ne peut arriver dans la création d'Allah sans sa volonté. Donc Allah l'a voulu. Et après, la création, il est tombé. Donc ça a toujours fait partie de la science d'Allah que ça allait tomber. Et il a ordonné que ce soit mis par écrit 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Et ensuite, il l'a voulu, et par la suite, ça s'est produit. C'est pour ça, tout ce qui se produit, quand il se produit, nous savons qu'Allah l'a décrété. Avant, on ne sait pas. Avant, on connaît la législation d'Allah. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Là, quand la chose arrive, on se soumet et on accepte le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si c'est un bienfait, on doit se montrer reconnaissant. Si c'est un péché, on doit se repentir. Et si c'est une épreuve, on doit faire preuve de patience. Et le serviteur, il ne sort pas de ces trois états. Il est forcément dans ces états-là. Il n'y a pas autre que ces choses-là. Et le décret, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi on est concerné, nous? On n'est pas concerné par le décret. Le décret, ce sont les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est concerné par la législation. Tu dois savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi et le faire, selon ta capacité. Et Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Amma, de trop creuser dans la prédestinée et le décret d'Allah, ça peut être la porte de l'égarement. Donc ça, c'est le deuxième point fondamental, c'est d'avoir la foi en ces cinq piliers de la foi, avec le sixième qui a été mentionné dans le degré de la patience. La foi au destin, la patience, rappelez-vous qu'on a vu, la patience, c'est de patienter face aux épreuves et aux décrets d'Allah amers, et au minimum de les accepter et de patienter. Ça, c'est le degré minimum obligatoire. Après, le serviteur, il peut évoluer dans la foi et se montrer satisfait d'un décret amer. Il peut encore augmenter davantage dans la foi et se montrer reconnaissant par rapport à un décret amer, par rapport à une catastrophe. Lui, il est reconnaissant. Il remercie Allah sur une épreuve. Peut-être que nous, on ne peut pas s'imaginer ça. Lakin, comme a dit un salaf, il a dit, à chaque fois que je suis touché par une épreuve, dans dunya, bien évidemment, là, la vraie épreuve et la vraie catastrophe, c'est pas ce qui te touche dans dunya. La vraie catastrophe, c'est ce qui touche ta religion. C'est ça, la cassure irréparable. Amma, dans dunya, tu perds une affaire, tu gagnes une deuxième. Tu perds un proche, t'auras peut-être une nouvelle naissance. Et même ceux que tu as perdus parmi tes proches, bi'idnillah, s'ils sont dans le tawhid et dans le suivi du prophète, tu les retrouveras au paradis. Lakin, la vraie catastrophe, c'est ce qui touche ta religion. C'est ça qui est irréparable en général. Donc il a dit, à chaque fois que je suis touché par une catastrophe, oh là là, c'est le temps. On termine juste cette faïda. À chaque fois que je suis touché par une catastrophe, je remercie Allah pour 4 points. Ça a été dans mes affaires mondaines et non pas dans ma religion. Ça n'a pas été pire que comme elle a été. T'as perdu un proche, t'aurais pu perdre 10. Et le troisième point, Allah m'a permis de faire l'invocation qui est légiférée quand on est touché par une épreuve. Allahumma jurni fi musibati wa ktub li khayran minha. Allah, accorde-moi la récompense dans cette épreuve et accorde-moi meilleur que ce que j'ai perdu. Fi dunya wa laysat fi din. Lam takun ashad mimma kanat. J'ai oublié le quatrième. En tout cas, c'est ce qu'il a cité par rapport à ces 2 degrés. Et ensuite, il va détailler le troisième et le quatrième, chose que nous allons voir, inshallah ta'ala, dans notre prochaine rencontre. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.